Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est un sujet central en urbanisme, c'est celui de l'organisation sociale. Alors, au-delà de l'organisation sociale, il s'agit aussi de l'organisation des activités, de tout ce qui crée la civilisation, la société. Alors, il est évident que ce ne sont pas les architectes et les urbanistes qui décide de cela dans un régime démocratique, bien évidemment, c'est la politique, les politiques et la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. Néanmoins, les urbanistes, architectes urbanistes, sont chargés de la mise au point, de la mise en pratique sur des plans de ces décisions qui sont les décisions politiques. Alors c'est un sujet dont on a déjà parlé, de la manière dont la technostructure s'est appropriée ce pouvoir en déshabillant les politiques de leur autorité. Et ça, c'est un problème de la démocratie. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'organisation sociale, c'est-à-dire la manière dont sont répartis dans l'espace public, d'une manière volontaire, d'une manière planifiée, les différentes couches sociales ou les métiers ou les âges, en fait, les catégories sociales. Alors, on entend parler de cette injonction du vivre ensemble et lié à ce vivre ensemble, on a aujourd'hui une sorte de précepte qui apparaît comme une injonction universelle, c'est la mixité sociale. Alors cette mixité sociale apparaît comme le remède à tous les problèmes de la société, c'est-à-dire qu'il suffirait que dans un même lieu, on ait les gens d'origine, de métier, de richesse, de pouvoir, qui soient en contact visuel, proximité géographique, pour que tous les problèmes soient réglés. Alors ça, évidemment, je pense qu'on est dans le monde des bisounours, ce n'est pas dans le monde de la réalité. Parce que dans ce manque de théorisation d'aujourd'hui, on a attribué aux méthodes, on peut dire, plus anciennes, c'est-à-dire la manière dont on faisait l'urbanisme au cours du XXe siècle, d'être responsable des problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc on a trouvé ce biais de dire, avant, il y avait une théorie de zoning, c'est le vilain mot, mais qui voulait dire que on planifiait dans des endroits différents l'organisation de la société. C'est-à-dire, il y avait des endroits qui allaient être pour le logement, des endroits pour la scolarité, des endroits pour la santé, des endroits pour le commerce. Alors tout ça, aujourd'hui, ne serait plus d'actualité, mais encore plus serait nocif et serait remplacé par la mixité. Alors, la mixité, ça veut dire que c'est tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on mélange les choses, mais on ne dit pas comment on les mélange. Alors il faut faire un petit rappel historique tout de même sur l'urbanisme, on peut dire depuis sa création, et j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire c'est une discipline, parce que ce n'est pas une science, mais qui avait une prétention d'être une science, comme beaucoup de disciplines à la fin du XIXe siècle, sous l'influence du positivisme. Donc on a eu ce que l'on faisait d'une manière spontanée depuis, on peut dire, l'aube de l'humanité, c'est-à-dire construire des villages, construire des villes et aménager le territoire pour reprendre le vocabulaire d'aujourd'hui. Ça veut dire que tracer des routes, les endroits où on se réunissait, où il y avait des ports, etc. Enfin, c'était la présence de l'homme sur la terre. Donc, le 19e siècle, ou du moins la fin du 19e siècle, et c'était un ingénieur qui s'appelait Cerdà qui a été qui a été le, on peut dire, le décidateur du plan de Barcelone. Et encore, c'est à discuter puisque le plan ne ressemble pas tout à fait à ce que Cerdà avait décidé. Mais enfin, Cerdà a créé donc une somme de textes, un ouvrage important où il crée ce mot urbanisme qui n'existait pas, puisque auparavant on était dans l'embellissement des villes, mais ça paraissait quelque chose qui se faisait sans le nommer. C'est comme la prose dans Le Gentilhomme de Molière. On faisait cela sans le savoir. C'est-à-dire que les élus, les architectes, prenaient des décisions sur les voies, sur les nouvelles constructions, et ça faisait partie de la politique dans un ensemble général, et ce n'était pas une discipline, on peut dire, autonome. Alors, les mauvais esprits diront que c'est au moment justement où l'urbanisme s'invente comme discipline autonome et scientifique qu'on arrête pratiquement, puisqu'en fait c'est au moment justement où on crée Barcelone, c'est un peu après Paris, mais enfin c'était fin du 19e siècle, est une période de grande planification des villes dans le monde, aux États-Unis, et puis dans à peu près dans tous les pays de l'Occident. Et cela va s'arrêter d'une manière surprenante. C'est-à-dire qu'il y a une sorte du chant du cygne de la ville. Et ensuite, on a nos villes modernes avec cette partie du 19e qui est toujours la ville lumière pour Paris, et puis les centres-villes qui sont admirés, avec juste raison d'ailleurs, par les habitants eux-mêmes et par les touristes qui vont d'une ville à l'autre pour les visiter. Alors, revenons à ce problème de l'organisation sociale, puisque c'est cela le sujet d'aujourd'hui. Et on a donc, dans les années qui vont venir, ou plutôt dans la décennie qui vont venir du XXe siècle, on va avoir des théories d'urbanisme. Donc, on appelle cela la charte d'Athènes. On a des figures comme Le Corbusier qui sont des grands réformateurs, mais aussi qui ont une faculté de publicité, de généraliser des choses qui sont assez difficiles à comprendre. Et donc, on a très certainement surévalué l'influence des théoriciens de l'architecture moderne et de la ville qui, en fin de compte, ne faisaient qu'acter la manière dont la ville s'organisait. Donc, donner la responsabilité aujourd'hui au ténor de l'architecture moderne du XXe siècle, de la responsabilité de l'urbanisme de cette époque, c'est un peu ridicule, parce qu'en fait, ils ont été des hommes de leur temps qui ont traduit ce qui était en train de se passer. Et vous le savez, c'est quelque chose dont je parle souvent, je pense que ce sont les sociétés qui fabriquent l'ensemble, on peut dire, politico-culturel, et évidemment il y a quelques individus qui vont être à l'avant-garde ou qui vont porter ces mouvements, mais en fin de compte, ces individus et ces mouvements sont le produit de la société et très peu l'inverse. Donc revenons à notre histoire de l'art moderne. Donc l'art moderne, dans le même esprit rationaliste et positiviste du 19e siècle, va avoir des méthodes qui ne sont pas scientifiques, qui sont simplement des méthodes de rationalisation, de simplification, pour dire on ne peut pas tout mélanger, mais est-ce que l'on mélangeait tout? dans la société antérieure. Ben, ce n'est pas certain. Je vous ai déjà parlé, une ville comme Toulouse, ben, c'est à peu près le cas dans la plupart des villes européennes. Il y a des rues qui portent toujours le nom des anciens métiers, et l'emplacement de ces rues est toujours lié à des raisons objectives, par exemple près du port, près de la rivière. On va avoir les tanneurs, on va avoir des activités qui vont être liées au halage, et on va aussi avoir par exemple la position de la cathédrale. C'est jamais un hasard. Autour de la cathédrale, il y aura bien souvent des hôtels particuliers, des quartiers calmes, on a des quartiers vivants, on peut dire une spécialisation de tous les quartiers que l'on retrouve à la fois par les noms, mais souvent, d'ailleurs, ces spécialisations peuvent aussi perdurer dans le temps et à travers les siècles. Donc, en fait, la ville ancienne, donc dans notre cas, il s'agit de la ville médiévale avec ses changements au cours des siècles, est une ville qui est une ville, on peut dire, organisée, une ville avec des spécialisations suivant les quartiers. Donc ce n'est pas un phénomène qui est un phénomène uniquement moderne. Simplement, il est vrai que la rationalisation moderne va le mettre en règlement, en code, beaucoup plus qu'avant, et on a, disons, une bureaucratie réglementaire pour des choses qui, en fait, dépendaient d'un relationnel entre le politique, entre les acteurs architectes. Par exemple, le plan de Paris de Haussmann, eh bien, il y a eu très très peu de textes. Ça a été fait par une sorte de concertation entre les architectes qui construisaient et le préfet Haussmann et évidemment les personnes qui l'entouraient, avec très peu de règlements, d'alignements, et on a une ville magnifique qui est faite, et une ville aussi moderne, qui correspond aux besoins de notre société aujourd'hui, et qui est faite avec un minimum de textes. Et un historien, Antoine Picon, avait fait toutes les recherches pour trouver la réglementation d'Haussmann, et puis il avait dû bien conclure qu'il n'y avait pas de réglementation, qu'il s'agissait en fait de règles très simples et qui étaient, on peut dire, données de bouche à oreille comme contrainte et comme indication aux acteurs qui construisaient. Donc, vous voyez que l'époque moderne, simplement, elle le met en forme. Elle ne change pas sur le fond. On est toujours sur des processus qui sont semblables. Simplement, aujourd'hui, les problèmes sociaux qui sont attribués à cette époque du XXe siècle, on attribue aux quartiers uniquement par exemple, les grands ensembles, c'est-à-dire les grands immeubles construits d'habitation pour loger les gens après, dans les années 50 et 60, eh bien, on appelle ça effectivement un zoning horrible où il n'y a pas d'équipement. Tout cela, évidemment, n'étant pas vrai, parce que si on regarde de près, il y avait des activités, il y avait des écoles, il y avait des bureaux, mais on n'était pas dans une sorte de mixité rêvée. Donc la mixité rêvée, elle est essentiellement sociale. Et le problème, c'est justement de penser qu'en mélangeant les catégories sociales, on va obtenir la paix sociale. On va marquer une pause musicale et je vais reprendre sur ce sujet de la paix sociale, qui est un sujet très important.
Was the knight in shining armor in your movie? Would put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone and masturbate. Hey! I've been trying to fix my pride, but that shit's broken. That shit's broken. Lie, 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 and try to hide. that I'm at an all time. Was the prototype like three stacks on that CD? An example of the perfect candidate now. All your girlfriends say that you don't want to see me. You're the reason that I just can't concentrate. I've been trying to fix my pride, but that shit's broken. That shit's broken. That I'm at an all time. That shit's broken. That shit's broken. Lie, 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 lie. I try to hide, but now you know it. That I'm at an all-time low, 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 low.
Ce problème de la mixité sociale, cette mixité sociale qui est considérée comme la solution à tous les problèmes. En d'autres termes, cette proximité de riches et de pauvres devrait résoudre tous les problèmes, et que les problèmes justement sont liés parce qu'il y a des séparations de distance entre les riches et les pauvres. Donc la réglementation actuelle impose du logement social dans les opérations et dans les villes. Et on sait que c'est un débat important parce qu'il y a des villes qui préfèrent justement, soit par absence de foncier, soit pour des raisons politiques, ne payer une sorte d'impôt. On peut dire, c'est une pénalisation, une espèce d'amende forfaitaire annuelle pour éviter le logement social. Alors, évidemment, ça veut dire que le législateur a pensé qu'il s'agissait pour le bien, donc on a une sorte de système de bons points suivant les villes, où on aurait un certain pourcentage. Alors ce pourcentage, évidemment, qui est un peu absurde parce qu'il varie d'une époque à une autre, où un certain dosage de gens qui habitent dans des logements sociaux avec des gens qui n'y habitent pas, donc qui seraient supposés être plus riches, assurerait l'équilibre et la paix sociale. Bon, évidemment, Cela se base sur des fantasmes et sur un fantasme notamment historique qui est l'immeuble haussmannien où on a un fameux dessin que l'on avait dans les livres d'histoire d'antan, et aujourd'hui aussi d'ailleurs, je pense que ça continue, où on avait la coupe de l'immeuble haussmannien, où on avait donc l'étage noble qui était habité par les bourgeois parce qu'il y avait des balcons et des fenêtres plus haute, et puis on avait donc un rez-de-chaussée qui était pour les commerces ou pour les gens plus pauvres avec très très peu d'éclairage naturel, et comme il n'y avait pas d'ascenseur, on avait dans les étages supérieurs les plafonds plus bas et les aussi sur un plan technique les murs moins épais, et puis dans les combles il y avait les chambres de bonne avec la domesticité des gens du premier niveau de la de l'étage noble. Donc alors ça apparaît comme le bonheur total. En fait, on est une société justement où cette mixité de proximité est liée à une, on peut dire, une étanchéité entre les classes sociales complètes, et en tout cas, on peut dire, les gens sont assignés à leur classe sociale, et aujourd'hui, on vous parle de l'assignation à résidence. Donc aujourd'hui, le discours officiel, c'est de dire les problèmes des grands ensembles et des quartiers sensibles, ça veut dire, pour parler franchement, les quartiers aujourd'hui habités par l'immigration, et je ouvre une parenthèse, il ne s'agit pas, comme j'entends dire souvent et récemment sur des interviews à la radio, que ces quartiers de grands ensembles de l'après-guerre ont été construits pour la migration. On se trompe tout à fait de période, ou alors qu'ils ont été construits pour l'arrivée à la fois des pieds noirs et d'une population immigrée d'Arquis ou de gens qui venaient dans les usines à partir donc des accords d'Évian de 1962. Non, c'était fait avant, c'était dans l'après-guerre dans laquelle il y avait eu à la fois des destructions en France, on était très en retard en France sur un plan de l'hygiène et du logement, et on avait aussi une mutation sociale entre que produisait la mécanisation agricole, et a donc une réduction des populations agricoles pour remplir les nouveaux emplois qui n'étaient pas que des emplois aussi d'usine, mais aussi des emplois du tertiaire, c'est-à-dire la grande mutation de l'après-guerre. Donc ces logements, ils étaient des logements de qualité où la plupart des gens n'avaient pas accès aux conditions d'hygiène modernes, et la France était très en retard par rapport à ses voisins. Alors non seulement la comparaison avec les États-Unis était évidemment énorme, mais on était très en retard sur un plan sanitaire. Je prends ce que dans les années 30 en France, c'est-à-dire dans l'entre-deux-guerres, dans les quartiers ouvriers à Paris, il y avait un sanitaire pour 40 personnes. Vous voyez à peu près le chiffre. Bon, alors ce sont des choses que l'on a oublié, donc il y avait des gens qui découvraient le sanitaire, simplement, l'eau chaude, ce qu'était une douche, et d'avoir les WC dans l'appartement et non plus sur le palier à partager avec d'autres personnes. Donc ça, ce n'était pas du tout dans la marge de la population, mais on peut dire que c'était dans le cœur central des populations françaises. Donc, ces logements nouveaux, modernes, ensuite, bien, il y a eu, on peut dire, un développement, un progrès dans les décennies qui suivaient, et ces populations ont laissé ces appartements pour aller notamment dans des lotissements, dans des villas, d'autres logements aussi. Donc il y a eu une mutation, mais ce n'était pas du tout parce que c'était insalubre, parce que c'était mauvais. Et d'ailleurs, ces logements ne sont pas insalubres parce qu'ils sont gérés par des offices HLM, et tout ça, le problème n'est pas celui-là. Alors évidemment, ces logements, il y a eu des vagues d'immigration et des vagues vagues d'immigration qui ont succédé à ce qui était des logements pour les classes moyennes françaises. Donc, aujourd'hui, quand on vous parle d'assigner à résidence, c'est quelque chose qui est totalement faux, insultant. Personne n'est assigné à résidence et il y a dans ce parc immobilier d'HLM, d'ailleurs, une grande mobilité, d'abord de mobilité interne où les gens vont d'un quartier à un autre et personne en France n'est assigné en résidence. Il n'y a pas le ghetto de Varsovie en France et tout le monde peut circuler. Et donc tout ça est totalement faux et dangereux, puisqu'en fait on pense que si on mélangeait les gens, alors évidemment amener des riches dans les quartiers pauvres c'est beaucoup plus difficile que d'amener des pauvres dans les quartiers riches, mais la question c'est pourquoi il y a des politiques qui sont quand même très coûteuses, notamment à Paris où on achète, la municipalité achète des immeubles anciens pour loger des gens qui, quelque part, n'en auront rien à faire et pourraient être mieux dans d'autres logements, mais simplement c'est pour le chiffre et pour dire, regardez comme on est vertueux, on fait de la mixité sociale et on introduit des gens à faible revenu avec des gens à haut revenu. À mon avis, tout ça, ça coûte des fortunes à la nation et ça ne sert pas à grand-chose. Alors, la question, c'est une question sociale que je ne vais pas résoudre aujourd'hui, mais c'est une interrogation. Le problème, par exemple, de l'étanchéité des classes sociales, et que c'est un problème qui est un problème plus de l'école et de l'éducation. Et aujourd'hui, on sait que ce fameux ascenseur social n'est plus aussi mobile qu'il a pu l'être, qui est un problème dont je ne vais pas parler aujourd'hui, qui est un problème de l'université et de l'école, qui sort des, on peut dire, du cadre de cette émission, mais le problème de la mobilité sociale est celui-là, et ce n'est pas un problème de logement, puisqu'en fait, le logement, on n'est plus comme avant dans des logements à vie où on essaie, on mourait, et on vivait, et on mourait dans le même logement. Aujourd'hui, la plupart des familles, au fur et à mesure de leur vie, bougent parce qu'il y a d'abord, il peut y avoir l'éducation qui fait que on n'est pas forcément à côté dans une école ou dans une université à côté de cela où on a vécu avant. Et puis après, il y a les mariages. Et les mariages, ils peuvent se faire sur une géographie beaucoup plus grande. Je ouvre une petite parenthèse, mais les mariages dans les communes paysannes de France, on a eu le cercle de mariage qui s'est ouvert au moment où la bicyclette est devenue un moyen de locomotion populaire. Et évidemment, ne parlons pas de la voiture. Donc, on était dans une question géographique qui aujourd'hui, évidemment, même je pense que les mariages qui se font par Internet, on est dans un autre domaine. Donc là, on est donc dans une mixité qui est une mixité, on peut dire, de familiale et qui n'est pas liée à une mixité de proximité qui serait liée au logement. Donc, me semble-t-il, le plus important, c'est d'assurer le fait que les couches sociales ne soient pas cloisonnées et que l'on puisse passer d'une couche sociale à une autre. Et ça me paraît beaucoup plus important que d'habiter des logements avec des gens qui ne se connaissent pas. Simplement, ils sont avec un immeuble à côté. Je ne vois pas vraiment l'intérêt avec ça, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, et ça va être mon propos de la fin, je veux vous parler justement d'immigrants. C'est un sujet qui est chaud aujourd'hui et je ne vais pas prendre position sur des problèmes politiques comme cela. Simplement, je vais citer quelque chose qui m'a énormément choqué. Apparemment, ça n'a pas choqué grand monde parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. C'est un positionnement de personnes différentes qui justifie la migration par le fait que les migrants sont les gens qui vont faire nos tâches difficiles. Alors, c'est dit par des gens de droite, de gauche, avec la même conviction, hein, on peut dire même avec la même hargne, en disant, mais comment vous, les personnes âgées, qui c'est qui va changer vos couches, et vous, vos enfants qui ne veulent plus faire les métiers du bâtiment, qui c'est qui va les faire à leur place, c'est dit avec, je sais pas, un ton absolument incroyable. Et ça me semble sidérant. Parce que de penser qu'on va faire venir de l'étranger des gens pour faire vider nos poubelles, changer les gens dans les hôpitaux et tenir les marteaux-piqueurs ou soulever des tâches lourdes, ça me paraît extrêmement choquant. C'est-à-dire qu'en fait, on va rétablir une sorte de couche d'esclaves et la question que je pourrais même poser, et les enfants aussi, vous pensez en faire des esclaves des tâches que l'on ne veut plus faire. Et ça, ça me semble totalement impensable, et justement, ça renvoie à notre mixité. Donc, on aurait donc une mixité, on aurait une mixité avec, pour reprendre la coupe sur l'immeuble haussmannien, on aurait effectivement les filles du sixième étage, des gens qui sont à votre service, qui ne font que les tâches les plus difficiles, qui déchargent des bourgeois de toutes les tâches domestiques, de toutes les tâches de la société, qui sont salissantes, etc. De la même manière que les castes en Inde, où il y a les brahmanes, et puis il y a les intouchables, qui eux ramassent les poubelles, nettoient les WC, etc. Alors ça me choque énormément. Et j'espère que vous êtes choqués aussi par cela, parce que le problème dans une organisation de société, c'est justement que tout le monde puisse bénéficier des mêmes privilèges, c'est-à-dire de la mécanisation, de l'hygiène, et que les tâches soient allégées et que tout le monde puisse y participer. Donc la critique qui est faite sur le mouvement moderne, parce que justement il cloisonnait, mais le mouvement moderne en architecture, il donnait justement à tout le monde ce qui était réservé aux très riches, c'est-à-dire le minimum de l'hygiène que l'on considère aujourd'hui, qui était considéré comme un luxe, c'est-à-dire des douches, des baignoires, l'eau chaude, le confort sanitaire, mais aussi le chauffage, la climatisation aujourd'hui, etc. Tout cela qui était des choses réservées à une infime partie de la population est généralisé. Donc, le mouvement moderne dit il y a les quartiers ouvriers, il y a des quartiers ouvriers, mais ce n'est pas du tout un rejet, une stigmatisation et, comme on dit, une assignation en résidence, c'est simplement qu'il y avait une ambition de donner à tout le monde ce minimum de qualité de vie et de le répartir sur toute la société. Et ça me semble essentiel. Et c'était porté justement par ces architectes qui sont tellement critiqués aujourd'hui du mouvement moderne. Et je pense qu'on doit leur être redevable aujourd'hui et on doit les remercier pour cela. Donc, aujourd'hui, cette mixité un peu bidon de mettre des quotas, c'est à mon sens totalement inutile parce que les relations aujourd'hui ne se font pas par le voisinage, mais se font dans le travail, se font, comme je vous disais, dans des clubs où ça se fait par Internet. Et donc, tout cela me semble dérisoire. Mais pour finir sur l'histoire d'immigrants qui seraient nos esclaves, je vous invite à réfléchir à cela et je pense qu'on devrait avoir d'autres paroles pour penser notre société en améliorant les conditions de travail difficiles, en augmentant les salaires pour que tout le monde puisse participer à toutes les tâches que l'on considère comme devant être faites par ces, entre guillemets, esclaves. Je vous souhaite une bonne semaine.